Il est 8h.
L'espoir grandit de rejoindre les plages de la Côte d'Azur. Cet été, la Suisse va rouvrir ses frontières aux touristes à la mi-juin.
Le JT de la Suisse hier soir. Nos voisins rêvent déjà de passer l'été dans cette carte postale géante qu'est la France. Sauf que chez nous, les autorités sont plus prudentes. L'enquête d'Europe 1 à suivre. Jusqu'à nouvel ordre, la règle, c'est 100 km maximum. Les gîtes ruraux espèrent ce matin des annonces du gouvernement en leur faveur.
Ce qu'on attend vraiment, c'est une relance avec un effort énorme sur le consommer local.
Dans ce journal, le chômage avec la surprise totale de la matinée. Une baisse du nombre de demandeurs d'emploi au premier trimestre. Olivier Samin va nous éclairer. Et puis, le champion du jour, si l'on peut dire. C'est un monsieur qui a non seulement bravé le confinement tous les jours, mais aussi provoqué les gendarmes en publiant sur les réseaux sociaux.
Des photos d'alpinisme, d'escalade, de VTT. On ne pouvait pas se permettre de laisser passer. C'était pas possible.
Je vous préviens, à la fin, c'est les gendarmes qui gagnent.
À 8h15, Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, invité de l'interview politique d'Europe 1 avec Sonia Mabrouk. À 8h30, on va parler immobilier. Vous étiez en plein projet, achat, vente, emprunt, location, peut-être travaux. Maël Bernier du site meilleurtaux.com sera avec vous. Vos questions au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. 8h45, Nicolas Canteloup et la revue de presse, bien sûr. Très bon réveil à toutes et à tous. Il est 8h01 sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Voyez-vous ça, la France est à l'arrêt, l'activité économique en chute libre. Mais le taux de chômage semble indiquer le contraire. On vous donnait il y a 20 minutes le chiffre très étonnant de l'INSEE pour le premier trimestre 2020, donc le tout début du confinement.
Un taux de 7,8%, une baisse de 0,3 points. Oui, une baisse du chômage. On peut vraiment parler d'une surprise, Olivier Samin.
Ben oui, on pouvait s'attendre à une hausse et même à une forte hausse au vu des chiffres du mois de mars publiés il y a 3 semaines par Pôle emploi, les plus 7,1%. Mais ceux qui sont publiés ce matin par l'INSEE découlent du fait qu'avec le confinement, le nombre de personnes sans emploi se déclarant disponibles pour en chercher un a fortement diminué. Parce que justement, ces personnes ne sont pas disponibles. La définition des chômeurs sur laquelle travaille l'INSEE, c'est celle des personnes qui se disent disponibles pour travailler dans les 2 semaines à venir. Or, c'était le cas de très peu d'entre elles à la fin du trimestre en raison, par exemple, des problèmes de garde d'enfants. Les moins 0,3 points du taux de chômage sont donc un indicateur en trompe-l'œil, ce que reconnaît d'ailleurs l'INSEE, qui ajoute que ça ne traduit absolument pas une amélioration du marché du travail au premier trimestre 2020.
C'est bien de le préciser ça. Olivier Samin du service économie d'Europe 1. L'autre chiffre du chômage, on l'a observé grimper à toute vitesse depuis 2 mois. C'est l'activité partielle. 12,4 millions de salariés, 1 million d'entreprises concernées et une facture de 26 milliards d'euros pour l'État.
Bonjour Philippe Martin.
Bonjour.
Vous êtes président délégué du Conseil d'analyse économique. Au-delà du coût pour les finances publiques, vous alertez sur des effets pervers si on prolonge le chômage partiel, en tout cas dans les conditions d'aujourd'hui.
Oui, il y a deux risques. Il y a un risque de fraude, c'est-à-dire que les entreprises continuent leur activité, mais les salariés travaillent et sont payés par le chômage partiel. Donc ça, c'est un risque budgétaire pour l'État, parce que ça coûte cher, en effet. Et puis, il y a un deuxième risque, et en particulier dans la situation de reprise du travail, c'est que les entreprises préfèrent ne pas reprendre l'activité, ou pas complètement, et faire payer les salaires par le chômage partiel. Donc ça, c'est un risque sur l'activité économique et sur la reprise.
Alors, j'imagine qu'on ne peut pas tout arrêter brusquement non plus. Ce serait quoi, finalement, la bonne manière de se déshabituer du chômage partiel ?
Non, le chômage partiel est en effet extrêmement utile. Hein. C'est ce qui permet qu'il n'y ait pas une énorme augmentation du chômage comme aux États-Unis. Donc il faut le faire très progressivement. Et je pense qu'il est sain qu'il y ait un petit reste à charge pour les entreprises. C'est-à-dire que par exemple 10% du salaire soit payé par l'entreprise. Et que donc ça incite les entreprises à la reprise du travail.
Merci Philippe Martin, président délégué du Conseil d'analyse économique, l'invité en direct du journal de 8h d'Europe 1.
Autre gros chiffre dans l'actualité, le dividende que les groupes automobiles PSA et Fiat Chrysler devaient se verser, 1,1 milliard d'euros chacun, dans le cadre de leur fusion. Ils y renoncent en raison de la crise.
On en parlait avec Axel de Tarlé à 7h20. Sanofi, le groupe pharmaceutique français qui prévoit de servir en premier les États-Unis s'il réussit à fabriquer un vaccin. Inacceptable, réagit ce matin la secrétaire d'État à l'économie Agnès Pannier-Runacher.
Contrairement à l'épidémie, nos vacances vont-elles s'arrêter à la frontière ? C'est la question qui agite tout un continent depuis que la Commission européenne a incité hier ses États membres à rouvrir les frontières.
L'Allemagne, la Suisse affirment qu'elles ont passé un accord avec l'Autriche et avec la France. Bonjour Théo Manval.
Bonjour.
Chez nos voisins, on se réjouit déjà.
Oui, écoutez, l'ouverture hier soir du journal télévisé en Suisse.
L'espoir grandit de rejoindre les plages de la Côte d'Azur. Cet été, la Suisse va rouvrir ses frontières aux touristes à la mi-juin avec la France.
La Suisse va rouvrir ses frontières aux touristes avec la France. Il y a bien un accord annoncé par l'exécutif suisse comme par le ministère allemand de l'Intérieur, sous réserve évidemment que la situation sanitaire le permette. Mais ni le Quai d'Orsay, ni la place Beauvau, côté français, n'ont fait un tel communiqué. Le 15 juin n'est pas une date contractuelle, nous dit même un conseiller ministériel. Ça n'est qu'un objectif. Clairement, les autorités françaises ne veulent pas donner de signaux trop optimistes alors que le déconfinement débute tout juste, que des rassemblements de population ont déjà dû être dispersés à Paris. La crainte d'une deuxième vague via l'afflux de touristes est une hantise au Quai d'Orsay. Et puis on ne sait pas surtout si l'épidémie aura assez reflué d'ici là, chez nous comme chez nos voisins, poursuit un diplomate. On ne va pas dire aux gens « vous pourrez bouger », leur laisser acheter des billets de train, des nuits d'hôtel pour finalement leur dire non au dernier moment. Il rappelle aussi que rien n'est encore tranché sur la levée des restrictions de déplacement au-delà de 100 km en France et que le point là-dessus ne sera fait que début juin.
Alors justement, cette restriction de 100 km, Théo, est-ce qu'elle pourrait continuer pendant l'été et s'appliquer aux touristes qui viennent en France ?
Eh bien, au Conseil scientifique, on n'est clairement pas pour cette option. Les situations sont trop disparates d'un côté et de l'autre d'une même frontière pour que cela ait vraiment un sens, nous dit l'un des experts. Et à l'inverse, laisser des Français aller en vacances hors de l'Hexagone n'est, dit-il, pas imaginé pour l'instant. Tout cela, vous le voyez, devra être tranché d'ici au 15 juin. Car comment expliquer alors que des touristes suisses puissent venir bronzer sur la Côte d'Azur alors que les monts du Tyrol resteraient inaccessibles aux randonneurs français ?
Enquête signée Théo Manval pour Europe 1.
Et c'est ce matin à 9h. Qu'a lieu le comité interministériel du tourisme avec des mesures très attendues par en particulier les hôteliers, les parcs de loisirs, mais aussi les gîtes ruraux.
Oui, ils sont plus de 40 000 en France, ils ont subi des dizaines de milliers d'annulations, mais ils veulent tenter de sauver leur saison. Nathalie Chevance.
Un château du 19e au bout d'une grande allée au milieu de la campagne provençale. Dans le gîte de Jean-Claude, aucun problème de distanciation sociale. Pourtant, pas de réservation pour le moment. Alors ce vigneron lance un appel.
Vous risquez moins chez nous dans un gîte qu'au supermarché d'aller faire vos courses. Tout est prêt pour vous recevoir avec de l'espace tout autour, partout, au milieu des vignes, en respect parfait des gestes barrières et de toute la protection qu'on peut vous amener pour que vous veniez en sécurité.
Désinfection des locaux, kits sanitaires mis à la disposition des clients et protocoles déjà en place, avec par exemple la possibilité de prendre son petit déjeuner en chambre ou dans une salle dédiée sans supplément. Sylvie Pellegrin, présidente de la Fédération des Gîtes de France, croit au redémarrage de l'activité.
Ce qu'on attend vraiment, c'est une relance avec un effort énorme sur le consommer local, de proximité. Et ce que nous attendons, c'est toutes les personnes qui sont dans la région, qui sont à moins de 100 km et qui pourraient venir se ressourcer à la campagne dans des domaines sécurisés et sécurisants.
Mais pour l'instant, les réservations ne décollent pas car les clients ne savent pas toujours que les gîtes sont ouverts. Alors le secteur compte sur une nouvelle campagne de communication. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Une petite bonne nouvelle ce matin, nous sommes sous la barre des 2500 patients en réanimation en France. C'est une première depuis le 24 mars. 58 000 patients sont sortis guéris des hôpitaux depuis le début de l'épidémie.
Europe 1. Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Un miracle dans un pays pourtant affaibli par les coupes budgétaires. En Grèce, le virus a tué proportionnellement 30 fois moins qu'en France. A tout de suite. Il est 8h09, c'est la suite du journal sur Europe 1 avec cette bonne surprise. Oui, la Grèce. La Grèce qui avait mis un genou à terre il y a 10 ans à cause de sa dette publique maquillée. Aujourd'hui, le pays est resté debout face à la pandémie.
Il est même cité en exemple par l'OCDE. Les écoles ont rouvert, les musées, ce sera demain. Pour l'instant, sans touristes, mais ce secteur pèse 30% de l'économie grecque habituellement, Vincent Arouette.
S'il y a un pays qui guette le retour des touristes, c'est la Grèce. Elle l'espère, elle s'y prépare. Mieux, elle le mérite. Le coronavirus a tué 156 Grecs, soit 14 morts par million d'habitants, quand l'Allemagne en a 68 et la France 409. Les Grecs ont mieux résisté, bien qu'ils soient plus vieux, plus gros que nous autres. Et à ces chiffres bruts, il faudrait ajouter les médecins qui ont émigré par milliers depuis 10 ans, les cliniques qui ferment par centaines, le système de santé laminé par les économies qu'ont imposé les bailleurs de fonds.
Avec tout ça, on s'étonne que l'hécatombe n'ait pas eu lieu, Vincent.
Eh bien, il y a un miracle grec, c'est la cohésion du peuple, le pragmatisme des dirigeants. Ils ont tout de suite bouclé les ports et les aéroports, refoulé vers la Turquie et sans prendre de gants les migrants qui voulaient forcer la frontière. 5 villages contaminés ont été coupés du monde et ajouté l'hydroxychloroquine dès les premiers symptômes et un héros au pays d'Hippocrate, Sotirios Tsiodras, infectiologue revenu d'Australie, il conseille le gouvernement et en prime, il est diacre, il a convaincu l'Église orthodoxe de se priver de messe. Aucune démagogie, le triomphe de la raison grecque. Éclatant comme le soleil sur l'acropole qui a rouvert le week-end dernier, la part d'ombre, ce sont bien sûr les camps de migrants entassés sur les îles de la mer Égée, le malheur du monde à la place du tourisme insouciant.
Le regard international de Vincent Hervouet, c'est tous les jours dans le journal de 8h d'Europe 1.
C'est ce qui s'appelle jouer aux gendarmes et aux déconfineurs. Pendant 34 jours, un jeune Toulousain est sorti en montagne en narguant les gendarmes. « Vous ne m'attraperez jamais », disait-il sur les réseaux sociaux, déclarant faire des bras d'honneur à toutes les règles.
Oui, mais les gendarmes ont fini par l'interpeller, non sans une petite satisfaction, explique le chef du peloton de gendarmerie de Haute-Montagne, le PGHM des Hautes-Pyrénées, le capitaine Jean-Marc Bougie.
Tous les jours, il a posté des photos d'alpinisme, d'escalade, de VTT, de bivouac en montagne. Tout était accompagné de propos très irritants et surtout outrageants. On a d'abord réalisé un travail d'enquête, extraire une identité, puis une adresse, puis un véhicule. Et enfin, effectivement, il a été trouvé sur un site d'escalade parce que sa pratique était tellement assidue qu'on se doutait bien qu'il allait se retrouver dans un des sites où nous aussi nous pratiquions. Lui, pour son petit plaisir personnel, se permettait de prendre tous les risques tous les jours. On ne pouvait pas se permettre de laisser passer, c'était pas possible.
Le capitaine de gendarmerie Jean-Marc Bougie, joint par Salomé Legrand pour Europe 1.
Merci François Geffrier, c'était le journal de 8h à 8h13 sur Europe 1. Nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Pourra-t-on voyager en Europe cet été? Quel contrôle aux frontières? Quelles règles sanitaires dans chaque pays? Qui pourra entrer ou pas? Autant vous dire que nous ne sommes pas sortis de l'auberge, peut-être l'auberge espagnole. En tous les cas, beaucoup de questions à poser ce matin à notre invité, le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton.
Et à 8h30, débat, dossier sur la question de la reprise dans l'immobilier. 39-21, vous allez intervenir. Vous étiez peut-être en train d'acheter, de vendre, de préparer une location au moment du confinement. Tout s'est arrêté. Comment est-ce qu'on reprend aujourd'hui? La question des déménagements aussi. Et puis on va parler des taux, des prix et de vos envies. Peut-être envie de verdure désormais, de quitter la ville. 39-21, le hashtag Radio Ouverte. N'hésitez surtout pas. C'est à 8h30. A tout de suite. 8h16 sur Europe 1. Votre invité Sonia Mabrouk, c'est le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton.
Bonjour Thierry Breton.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et bienvenue ce matin sur Europe 1. Comme pour le confinement, l'Europe aborde le déconfinement en ordre dispersé. Chaque pays a sa stratégie, ses règles. Est-ce que vous le déplorez?
Oui, chaque pays. Vous savez, le tourisme, c'est une activité qui est mondiale, qui est planétaire. Et du reste, nos auditeurs le savent bien. Et chaque pays de la planète, effectivement, aborde cette nouvelle phase dans laquelle nous entrons. Dieu soit loué, j'allais dire, mais on ne fait qu'y rentrer, c'est-à-dire la phase du déconfinement. Aujourd'hui, 2/3 des pays de la planète sont fermés. Et effectivement, on doit maintenant progressivement rouvrir l'ensemble de nos pays. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe, c'est vrai en Asie. Donc oui, on rentre dans cette phase progressive de déconfinement et donc de réouverture, enfin, j'allais dire, de nos frontières. Et en ce qui nous concerne en Europe, on veut le faire de la façon la plus coordonnée possible.
Justement, vous dites coordonnée, Thierry Breton, mais à titre d'exemple, la Grèce évoque des tests pour tout arrivant sur son sol. L'Espagne parle d'une mise à l'isolement, etc., etc. C'est un éparpillement façon puzzle.
Oui, c'est vrai, là, encore une fois, que chacun, maintenant, doit ouvrir ses frontières en fonction de l'évolution de la pandémie et des critères épidémiologiques. Et donc, lorsque vous avez un pays qui a été très touché, comme l'Espagne, c'est vrai qu'il y aura peut-être un petit peu de retard par rapport à d'autres pays, et notamment comme la Grèce, dont je rappelle que c'est l'un des pays qui a été le moins touché. Donc, vous allez voir, effectivement, dans cette période qui va concerner, il faut le dire, Sonia Mabrouk, non pas plusieurs mois, mais quelques semaines. Donc on a quelques semaines dans lesquelles maintenant, pour s'harmoniser. Je rappelle, nos auditeurs le savent tous, on le sait tous, on rentre dans cette phase que depuis 4 jours maintenant. Donc il faut effectivement, maintenant progressivement, en fonction des critères épidémiologiques, s'harmoniser progressivement. Vous avez vu du reste que la France désormais se dispense de la quarantaine ou de la quatorzaine. L'Allemagne a dit qu'au 15 juin, elle allait également s'en dispenser. Donc voilà, on vit dans cette phase-là. Mais je le répète, aux États-Unis, la Californie est encore fermée, la Floride vient d'ouvrir. Où nous sommes un continent, Sonia Mabrouk, et il faut effectivement qu'on réagisse avec ce rythme, au rythme
Thierry
d'un
Breton,
continent.
Un continent où l'on parlait autrefois d'harmonie, on a compris le défi, quand vous dites il faut s'harmoniser. Quel est l'enjeu? Parce que vous tentez de sauver la saison touristique et plus largement le secteur avec de nombreuses recommandations, on va en parler de la Commission européenne. Mais qu'est-ce qui est en jeu? Combien pèse ce secteur touristique en termes d'emploi dans l'UE?
Alors il y a deux enjeux. Alors, il y a d'abord l'enjeu pour nous tous. Parce que j'allais dire, si vous permettez, le tourisme, c'est la vie. Le tourisme, c'est sortir, c'est aller voyager, c'est découvrir de nouveaux espaces, c'est la culture, c'est découvrir le patrimoine. C'est pas uniquement les plages, même si les plages sont importantes. Le tourisme, c'est aussi la liberté d'aller à la rencontre de l'autre, d'aller à la rencontre de notre histoire. Et c'est ça, effectivement, ce qui est aujourd'hui important et ce à quoi beaucoup d'entre nous aspirons. Et puis il y a aussi le tourisme, et donc on est en train de s'organiser pour progressivement le faire, et que la saison 2020 soit une saison qui sera évidemment très particulière, mais où l'on puisse retrouver effectivement tout ce qui nous
amène. Est-ce qu'il y aura une saison touristique cet été? Vous pouvez l'affirmer?
Oui, il y aura une saison touristique cet été, évidemment. Elle va évidemment être différente. Je ne vais pas dire par pays, je préfère dire par zone. Parce que évidemment, vous avez des zones, on voit du reste en France, et je crois que les autorités françaises ont bien pris les choses avec les zones encore un peu plus risquées que d'autres, les zones rouges, les zones vertes. Donc il y a effectivement des zones, mais c'est vrai aussi encore une fois en Autriche, c'est vrai avec les Länder en Allemagne. Donc on va plutôt déconfiner par zone. Et ce qu'il convient de faire, et c'est le deuxième volet pour votre question, c'est évidemment de sauver ce secteur. Je dis bien de le sauver parce que, Sonia Mabrouk, on sortira évidemment de cette situation. On en sortira. Elle va durer plusieurs mois encore, mais on en sortira. Et moi, en tant que commissaire au marché intérieur, ce qui m'importe, c'est que l'on sauve précisément tout ce secteur. Alors, personne ne le sait, bien entendu, personne ne le sait, les choses vont mieux, mais en partie, voyez-vous, ça dépendra aussi de nous tous collectivement. Si nous résistons, évidemment, à l'envie revenir très vite dans la vie d'avant, dont on se rend compte qu'elle n'avait pas que du mal, on réussira précisément à sortir de cette situation. Parce que, dans le même temps, les progrès scientifiques sont là, parce qu'on est en train de trouver des médicaments, je vous le dis, qui vont permettre précisément de commencer à soigner de façon beaucoup plus scientifique, on va dire, qu'empirique cette maladie, parce que c'est une maladie, parce qu'il y aura un vaccin, et donc oui, on en sortira, et je pense que l'horizon, c'est quelques mois, il faut passer ces quelques mois.
Mais nous sommes dans l'urgence et en même temps, la Commission européenne incite, on va en parler en détail, à la réouverture progressive, on a compris, des frontières intérieures des lieux. Mais on pourrait vous demander ce matin de quoi se mêle la Commission européenne. Chaque État membre fait ce qu'il veut, surtout quand il s'agit de la santé de son peuple.
Alors, ça, c'est très important, effectivement, ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement, la santé est une prérogative des États membres, et c'est bien ainsi. Et je crois qu'il faut que ça le reste. Et c'est aussi dans ce contexte qu'il faut que nos auditeurs soient bien conscients que ce sont à la fin les autorités de santé qui décident, effectivement, en collaboration, en coopération avec les acteurs du monde du tourisme, des mesures barrières à mettre en place pour précisément assurer la sécurité des touristes. Et il y aura beaucoup de lieux, je vous le dis ce matin, beaucoup de lieux en France et en Europe où ceci sera mis en place et en toute sécurité. Parce que les professionnels se préparent avec évidemment les autorités de santé, mais aussi avec nous. Parce que nous avons une vision globale de tout ce qui se passe. Il y a aussi, voyez-vous, beaucoup de très bonnes idées, beaucoup d'initiatives qui sont mises en place maintenant. Et donc, on les partage et on les met en place. La Commission européenne, par ailleurs, elle doit vérifier précisément qu'il n'y a pas d'éléments contraires. Je vous donne un exemple. Vous avez un pays comme par exemple l'Autriche qui vient de signaler qu'elle voulait commencer à rouvrir progressivement certaines frontières. Pourquoi pas, dans la mesure où la situation épidémiologique est la même des deux côtés des frontières qui vont s'ouvrir, mais non si jamais c'est uniquement ça peut avoir ou ça peut revêtir un caractère discriminatoire. Et là, la Commission, évidemment,
Restons sur votre exemple. L'Autriche, Thierry Breton, pays peu affecté par le virus, dit bienvenue aux Allemands, mais ne veut pas d'autres nationalités synonymes de contamination.
Donc c'est de la discrimination, non, nous sommes d'accord.
Ou alors non, du bon elle sens. Non, elle dit effectivement, elle dit effectivement, et je me suis entretenu sur ce point, Sonia Mabrouk, avec la ministre du tourisme autrichien. Elle dit bienvenue aux Allemands parce que la situation épidémiologique est maintenant comparable en Allemagne et en Autriche. Mais effectivement, si d'autres pays, et je ne vais pas les citer, mais on en connaît certains, où la situation épidémiologique n'est pas comparable, à ce moment-là, on attend ou on met des périodes de quarantaine.
Donc si j'ai bien compris, Thierry Breton, si j'ai bien compris, un Italien résident en Allemagne peut faire du tourisme en Autriche, mais un Italien résident en Italie pourrait se voir fermer le territoire autrichien car l'Italie est un pays à risque.
Si vous résidez dans un pays qui a une situation épidémiologique comparable, effectivement, il peut traverser la frontière. Voilà, quelle que soit du reste son origine.
Restons dans les exemples concrets pour nos auditeurs. On a appris hier que les frontières avec la France, l'Allemagne et l'Autriche rouvriront entièrement le 15 juin. Évidemment, ça dépend de la situation épidémique. Mais si en France, Thierry Breton, la règle des 100 km est prolongée, à quoi sert l'ouverture des frontières pour nous ?
Bien, l'ouverture des frontières, encore une fois, d'abord la règle des 100 km, on va voir comment ça évolue d'ici au 15 juin. Elle peut évoluer et elle pourra peut-être évoluer, on le voit du reste dans certains pays, en fonction de l'évolution de la pandémie. Et donc, il n'est pas impossible que cette règle de 100 km, au bout de quelques semaines, elle passe à 200 ou à 300. Et puis encore une fois, je voudrais le dire, le tourisme, je vous donne quelques chiffres. En Europe, c'est un secteur extrêmement important, on en a parlé tout à l'heure, c'est 3 millions d'entreprises, dont 90% sont des toutes petites entreprises, des hôtels, des bars, des restaurants, des lieux de convivialité, des lieux évidemment culturels, et puis c'est aussi, bien entendu, un accueil important, mais vous voyez, le nombre de nuitées en Europe, 60% des nuitées, que ce soit dans les hôtels ou dans les campings, 60% des nuitées sont réalisées de façon domestique, c'est-à-dire dans le pays d'origine. 27% intracommunautaires, c'est-à-dire des touristes qui sont des Européens qui vont venir d'un pays à l'autre, par exemple des Néerlandais qui iront en Espagne, et uniquement 13%, même si c'est beaucoup au niveau mondial, qui sont extra-communautaires. Donc vous voyez, ça veut dire que la saison, elle va pas être perdue, parce que nous avons effectivement cette envie, nous avons cette appétence, et nous avons, je le redis, des organisations qui se préparent. Alors il faut les aider, et il faut un plan massif. J'en ai même appelé
un
plan Marshall
pour le tourisme. Oui, justement, vous avez évoqué ce plan Marshall, Thierry Breton, européen pour le tourisme, alors que la France, d'ailleurs, aujourd'hui même, prépare son plan tourisme. De combien sera-t-il doté et comment sera-t-il réparti ?
Alors écoutez, nous y travaillons, comme vous le savez, à la Commission européenne. Nous travaillons à un plan de relance avec
mon
collègue.
Vous avez eu le temps depuis, j'imagine, vous avez un ordre d'idée.
Il est très clair. Du reste, je l'avais évoqué depuis un certain nombre de semaines. On l'a finalisé. C'est une question extrêmement importante. Donc, on est en train maintenant de finaliser tout cela. Et je pense que dans les jours qui viennent, il y aura à ce moment-là une discussion. Et puis, on va reparler ensuite avec les États membres. Alors, de combien? Ben, vous savez, les choses, elles sont simples, hein. L'unité, on l'a dit, hein. L'unité, c'est pas le milliard, c'est le milliard de milliards. C'est ça l'unité dont on parle pour un plan de cette nature. C'est pas des petits montants, parce qu'encore une fois, c'est à la hauteur de ce qu'il faut
bien
faire
sûr.
Très vite,
Thierry Breton,
très vite,
oui.
Auprès de ce secteur pour l'aider à passer cette
pleut,
crise.
Il pleut des milliards, et je continue juste même deux questions pour conclure. Vraiment des questions concrètes. La Suisse envisage aussi de rouvrir ses frontières pour le tourisme avec trois de ses voisins, l'Allemagne, la France et l'Autriche. Je ne sais pas si vous avez suivi le téléjournal suisse hier, mais il titrait cet été direction la Côte d'Azur. C'est ça ce qu'il faut encourager, c'est ce brassage, ces déplacements.
Eh bien, encore une fois, si les situations épidémiologiques sont identiques, oui, on pourra voir certainement nos amis suisses venir sur la Côte d'Azur, parce que je sais que sur la Côte d'Azur, comme dans beaucoup d'endroits en France, on est en train de s'organiser pour les accueillir en toute sécurité.
Et le tourisme, comme vous l'avez dit, c'est la vie et la rencontre de l'autre, hein, malgré les menaces. Merci Thierry Breton, merci d'être intervenu ce matin sur Europe 1.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h27 sur Europe 1.
Europe 1.
Vous en êtes où de vos projets immobiliers ? Beaucoup ont été stoppés net le 17 mars dernier au moment du confinement. On va en parler à partir de 8h30 dans une minute et demie avec Maëlle Bernier de MeilleurTaux.com. Essayez de savoir quelle sera la reprise du secteur de l'immobilier, les taux, les prix, bien sûr, ces questions que vous vous posez, mais aussi ces envies que vous avez peut-être. Est-ce que certains d'entre vous se disent « je vais quitter la ville et m'installer à la campagne, en périphérie ». 3921, le hashtag Radio Ouverte, dites-nous où vous en êtes de votre projet qui a peut-être été bloqué. Est-ce que certains ont connu des difficultés quand on a vendu un bien, pas encore acheté l'autre, ou l'inverse. 3921, vous serez en direct avec nous, à tout de suite.
La matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1. Franchement, je vais vous poser une question avant de parler d'immobilier. Est-ce que ça ne vous manque pas un bon restaurant, une petite table, peut-être une terrasse, je ne sais pas. Simple restaurant, entrée, plat, dessert. N'hésitez pas à nous dire au 3921 quelles sont vos envies à ce niveau-là. Parce qu'on va parler avec les restaurateurs. Vous allez nous dire au 3921 quelle est la réalité de votre situation aujourd'hui et surtout comment vous imaginez reprendre dans ce contexte de sécurité sanitaire. Nous serons avec le chef 3 étoiles, Guy Savoie, entre 9h et 9h30. Pour la première fois, un 3 étoiles qui lance la livraison. Si c'est pas de l'innovation, ça, du coup, dans le secteur de la restauration. 9h, 9h30 avec vous. 3921, le hashtag Radio Ouverte. Même coordonnées pour intervenir dans ce dossier immobilier que nous ouvrons à présent avec Maëlle Bernier. Bonjour Maëlle Bernier.
Bonjour Mathieu Média.
Directrice de la communication et porte-parole de MeilleurTaux.com. Voilà des questions que se posent nos auditeurs, les Français d'une manière générale, les questions relatives à l'immobilier. Je vais faire très simple, ce sont souvent les mêmes. Avec cette crise du coronavirus, quel impact est-ce qu'on va avoir sur les prix ?
Alors écoutez, sur les prix, je vais faire une réponse de Normand, mais quand même, avant la crise, il y avait déjà plusieurs marchés. Après la crise, il y aura toujours plusieurs marchés. C'est très compliqué de dire les prix vont s'effondrer 10% partout en France. Moi, je ne crois pas du tout à ce scénario. Il y aura des villes qui vont se maintenir. Je ne pense pas que Paris s'effondre. Je pense qu'il y a des grandes villes TGV qui étaient en train de remonter, qui vont certainement se stabiliser. Et puis ensuite, il y aura peut-être des micro-marchés qui vont apparaître. On parle beaucoup de cette maison avec jardin un petit peu à une heure des grandes villes. Il va falloir voir, c'est encore un petit peu tôt, mais en tout cas je ne pense pas du tout pour un effondrement des prix.
Bon, pas d'effondrement des prix en vue nécessairement, nous dit Maëlle Bernier ce matin. Pareil, c'est une question, vous savez que je vais la poser. Quelle vision est-ce que vous avez sur les taux?
Alors les taux c'est plutôt des on va dire des relativement bonnes nouvelles. En fait, on a eu une augmentation de taux au mois d'avril. Donc en plein milieu du confinement, on a vu des banques qui augmentaient leurs taux avec des hausses qui vont entre 0,10 et 0,40. Donc ça a fait des moyennes à plus 0,25, ce qui n'est pas vraiment une catastrophe. On reste toujours sous des taux quand même très inférieurs à 2%, rappelons-le quand même. Et puis en mai, celles qui n'avaient pas monté en avril ont remonté, mais les autres sont restées stables. Donc je pense que les taux, même s'ils augmentent un tout petit peu, ce qui est possible, parce que les banques vont peut-être chercher à reconstituer un petit peu de marge, ne vont pas prendre un chemin fulgurant à la hausse. Et donc on va rester dans un tunnel de taux bas. Et c'est d'ailleurs ça qui sera la clé pour la reprise du marché et pour l'accession à la propriété notamment.
Maëlle Bernier de MeilleurTaux.com. Avant de prendre Olivier au 3921, vous m'entendez Maëlle Bernier? Vous savez ce qu'on va faire? On a une qualité téléphonique qui se dégrade de la liaison. On va rappeler Maëlle Bernier sur son téléphone pour faire simple et comprendre bien ses réponses. En attendant, je vais accueillir Olivier qui est avec nous au 3921. Bonjour Olivier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Du côté de la Normandie, je crois, Olivier, si ma mémoire est bonne.
Exactement.
Hein. Bon, et alors vous êtes dans l'illustration parfaite de cette question que nous posons. Est-ce que les urbains vont quitter la ville? Vous habitez à une heure de La Défense, je crois, où vous travaillez.
Exactement. Et en fait, nous sommes pleins dans ce cas, avec le télétravail vraiment qui semble se généraliser. Donc moi, la question que je voulais poser à Maëlle quand la communication sera revenue, si je vends ma maison maintenant ou si des amis vendent leur maison, d'ailleurs je connais quelqu'un qui peut vendre sa maison pas loin de chez moi, elle se reconnaîtra. Marie, si tu nous écoutes, en fait, les prix vont-ils être de suite impactés par cette nouvelle conjoncture? En gros, si maintenant je vends ma maison, est-ce que je peux estimer une plus-value de 5 à 7% par exemple?
Bon, est-ce que Maëlle Bernier est revenue, est en direct avec nous? On va la retrouver dans un tout petit instant. En attendant, Olivier, justement, votre témoignage, il est précieux pour ces Parisiens qui hésiteraient à quitter la ville. Cette période de confinement, permettez-moi, vous l'avez vécu un peu différemment que beaucoup de Français, Olivier, non?
Ce confinement, pour moi, sincèrement, c'était un non-événement pour plein de raisons. Déjà, la ville dans laquelle j'habite, en Normandie, a fibre, donc avec un débit Internet qui est parfait. L'entreprise dans laquelle je suis avait des logiciels performants pour télétravailler. Le cadre de vie dans une ville à une heure de Paris, surtout en Normandie, est très agréable, avec beaucoup de forêts, avec un jardin dans la maison. Donc, ce sont des heures de trajet en moins. C'est un mode de vie qui est quand même différent. L'entreprise a aussi organisé des rencontres Skype tous les matins pendant 30 minutes, de façon à ce qu'on puisse échanger sur le quotidien, sur ce qui va, sur ce qui ne va pas.
Vous savez que j'allais faire envie.
La radio ouverte vous a accompagné aussi, hein, une super radio ouverte.
Merci Olivier. Mais vous allez agacer quelques Parisiens, et pas que Parisiens, des urbains qui ont peut-être vécu ce confinement différemment, sans le jardin, sans la qualité du télétravail que vous avez peut-être connu. Maël Bernier, on vous a retrouvé, merci d'être en ligne avec nous. Olivier demandait tout simplement si cette conjoncture de coronavirus et de confinement qui peut-être donne des envies à certains urbains de s'éloigner des cœurs de ville, est-ce que ça va avoir un impact sur les prix de chez Olivier?
Alors, de chez Olivier, je ne sais pas, parce que je n'ai pas de micro-marché, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on sent cette envie quand même. De la maison et le jardin, de toute façon, ça a toujours été le rêve absolu. Ensuite, tout dépendra de la manière dont les entreprises sont prêtes à le faire ou pas, parce que c'est bien, on veut tous partir en province ou même un peu plus loin des grandes villes, mais il faut quand même que le travail soit effectivement organisé et possible, parce que c'est pas possible pour tout le monde. Mais effectivement, je pense qu'il va y avoir il y aura un avant, un après, notamment dans les envies et les grandes villes avec les beaux appartements, même si c'est magnifique, peuvent peut-être faire un peu moins rêver que des petites maisons avec jardin. Olivier parlait de la fibre. Effectivement, c'est la clé du succès, parce que sans Internet, vous ne pouvez pas télétravailler. Donc, l'équipement du territoire français en général est un enjeu, mais effectivement, il peut y avoir des modifications. Moi, j'y crois aussi, hein, sur la manière dont les gens se répartissent sur les territoires.
J'ai une question de Pascal. Merci Olivier, hein, en Normandie, de nous avoir appelé au 39-21. Et cette question, elle est en plein dans la problématique que nous posons. Pascal nous dit, lui, c'est plus la situation de crise qui l'intéresse, si j'ose dire. Je sens que le vendeur est encore plus pressé de vendre qu'il y a 2 mois. Quels arguments je peux lui donner pour qu'il baisse vite et bien son prix?
Bah, de toute façon, non. Alors oui. Alors, est-ce que si le vendeur est pressé de vendre, déjà, c'est qu'il a forcément peut-être acheté un bien derrière ou autre. Quels arguments ils sont très simples. Soit l'acheteur veut le bien et il le veut à tout prix, et dans ces cas-là, il faut tomber d'accord. Mais dire au vendeur votre bien va s'écrouler, c'est pas forcément la solution. En revanche, s'il était tombé d'accord sur un prix avant. Vous pouvez demander une ristourne, vous pouvez essayer de négocier, mais il ne faut pas non plus tomber à dire on achète à moins 20%, c'est pas vrai.
Alors Joseph nous demande, ai-je intérêt à vendre mon bien aujourd'hui ou est-ce que c'est plus intéressant financièrement d'attendre? Vous me disiez que vous ne pariez pas forcément sur une baisse des prix, hein.
Non, mais alors surtout, l'immobilier, il faut quand même rappeler que dans 70% des cas, c'est de la résidence principale, et dans plus de 8 cas sur 10, c'est pas du locatif. C'est des gens qui achètent pour acheter un bien, une résidence principale ou secondaire. Donc le côté, est-ce que j'attends pour faire un coup, est-ce que je vais faire un coup dans 2 mois, c'est pas ça. Les gens qui achètent, c'est parce qu'ils ont un besoin, ils se marient, ils divorcent, ils ont un enfant qui arrive, un deuxième, un troisième. Donc le côté, en fait, très opportuniste de l'immobilier, moi j'ai toujours du mal, parce que on achète parce qu'on a un besoin. Il ne faut pas oublier que l'immobilier, c'est un besoin de vie.
Muriel, et là, ça concerne directement votre activité chez Meilleur Taux. Muriel nous dit, mon courtier m'avait trouvé un taux génial, 1,1 sur 25 ans. Mais c'était il y a génial. 2 mois. C'était il y a 2 mois. Si je leur demande de me rechercher un nouveau taux, je devrais le repayer?
Alors, le courtier, on le paye quand le prêt est libéré. Donc, elle n'a pas dû payer le courtier. Ça, c'est clair et net. En revanche, le indice sur 25 ans qui lui avait été proposé il y a 2 mois, si elle a eu une offre de prêt et qu'elle ne l'a pas acceptée, malheureusement, elle est caduque, parce que l'offre de prêt, c'est 30 jours. Si c'était une évaluation de sa situation à l'époque, il faut effectivement revoir le courtier. Il n'est pas du tout dit qu'il y avait effectivement un 10 sur 25 ans, parce que, comme je vous le disais, les taux ont monté. Le courtier n'a pas été payé. Si elle a eu une offre et qu'elle l'a signée, elle est toujours valable. Enfin, voilà, je faut préciser, en fait.
Il y a cette question qui est arrivée, qui fait référence à un article du Parisien ce matin. Alors, j'ai l'article aussi, c'est Rachel qui nous dit, j'ai lu ce matin que les courtiers voulaient mettre en place une espèce de visa pour prouver la bonne foi des acheteurs. Rachel demande si c'est légal. Alors en fait, c'est plutôt une forme de passeport qui prouve la solvabilité ou la capacité d'emprunt de...
Alors tout à fait. Alors chez Meilleur Taux, ça s'appelle le visa pour le crédit. Je vais faire un peu de pub parce que vous avez vu que c'est quand il vient sous le nez. En fait, c'est une manière de dire aux gens, et à la fois aux agents immobiliers également, voilà, vous avez un client en face de vous qui veut visiter tel bien, on peut vous aider à voir si cette personne est réellement finançable sur ce type de bien. Je m'explique, vous avez des gens qui vont appeler, le bien vaut 300 000, et puis en fait, on va se rendre compte qu'ils ne peuvent pas emprunter plus de 250. Est-ce que ces gens-là, on a intérêt à aller les faire visiter un bien, alors qu'on est en pleine crise sanitaire, est-ce qu'on va les faire rentrer chez d'autres gens? Vous voyez, c'est la manière de se réorganiser un peu dans l'immobilier, de digitaliser et de qualifier les demandes. Les agents immobiliers ne pourront plus... avoir autant de, on va dire, de touristes de la visite, c'est-à-dire des gens qui disent bon ben cette baraque-là, je sais que je peux pas l'acheter, mais je vais quand même aller la visiter parce que c'est juste pour voir. Ben ça, ce sera plus, on est plus, c'est plus possible en termes de Covid. On peut plus rentrer comme ça chez des gens pour rien. Donc c'est le visa pour le crédit tel qu'il existe chez nous, c'est de dire on vous délivre gratuitement un calcul d'enveloppe, une attestation de finançabilité et qui va dire ben voilà, vous monsieur, madame Béliard, vous pouvez emprunter 300 000 euros, donc vous pouvez en fait visiter des biens de cette valeur.
Bon, eh bien écoutez, ça c'est, je découvre complètement l'existence de ce visa que vous pratiquez aussi apparemment. J'ai cette question de Jean-Philippe. Lors de la crise de 2008, les banques avaient clairement coupé les robinets. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes sereine sur le financement, sur l'interlocuteur banque, alors qu'on annonce une crise économique majeure?
Alors, c'est pas du tout la même crise que 2008, ça beaucoup de spécialistes ont expliqué. Néanmoins, il est assez normal de s'inquiéter. Est-ce que les banques vont continuer à prêter? Elles sont la clé de la reprise du marché, hein. Donc, si les banques ferment les robinets, il n'y a plus de marché immobilier. Donc je pense qu'elles vont continuer à prêter. Maintenant, je pense que l'espèce d'open bar qu'on a un peu connu il y a un an peut se resserrer. Et puis en plus, il y a des problématiques assez importantes de ce qu'on appelle de taux d'usure, avec des taux qu'il ne faut pas dépasser et qui ont tendance à exclure du marché des gens qui pouvaient être finançables il y a un an et qui aujourd'hui, comme les taux ont légèrement remonté, eh ben, ne passent plus. Donc oui, je pense que les banques vont continuer à prêter, mais tout en essayant de reconstituer quand même un petit peu de marge, et que je ne vais pas vous dire que la fête est finie, mais en tout cas c'est moins la fête qu'il y a un an et demi.
Maëlle Bernier, merci beaucoup. Directrice merci de la communication de meilleurtaux.com, porte-parole de meilleurtaux, toujours très clair pour nos auditeurs. Il y avait évidemment beaucoup de questions puisque c'est un sujet qui vous concerne directement, ces questions autour de l'immobilier. Merci à tous d'avoir participé sur le hashtag Radio Ouverte. Je ne vais pas citer tous les noms, mais Olivier qui était en direct avec nous il y a quelques minutes encore au 39-21, 8h43.
Europe 1.
Toujours au cœur de vos préoccupations, les restaurants, entre 9h et 9h30 sur la radio ouverte Europe 1. Vous le savez, vous intervenez déjà au 39-21. N'hésitez pas dans quelques secondes, la revue de presse de Nicolas Canteloup. 8h46 sur Europe 1. La revue de presse de Nicolas Canteloup avec Julie.
Presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Ah, ne bougez pas, Mathieu Béliard, on vous retrouve tout de suite pour l'actualité.
Mais bien sûr, je ne bouge pas, ma chère Julie. L'actualité aujourd'hui, chers auditeurs, c'est bien sûr la réouverture de certaines plages à condition, bien sûr, d'y faire du sport. Et déjà, 135 euros d'amende, on l'a appris hier soir pour Valéry Giscard d'Estaing, arrêté sur une plage du Cap d'Agde avec une paire de jumelles. Et puis, l'actualité, c'est aussi le chômage. Le chômage, on l'a appris en direct ce matin à 7h30, qui a baissé au premier du trimestre. Vous l'avez appris sur notre antenne en direct. Même moi, j'étais surpris. Pourtant, je suis rarement surpris par l'actu. Malgré le confinement, donc, une baisse de 0,3%. Sur l'INSEE, une baisse donc en trompe-l'œil, comme on l'appelle. C'est.
Mais franchement, quel nul. Vraiment, Emmanuel Macron aura été le plus mauvais président qu'on ait jamais connu. Oui, allez-y, intervenez en direct, c'est la radio ouverte, c'est François Hollande, si vous ne l'avez pas reconnu.
Ah si, on l'a reconnu.
On est des imitateurs professionnels. Mais franchement, ne faire baisser le chômage, je me suis bien dit, Darmon, je faire baisser le chômage que de 0,3 points en plein confinement, mais c'est lamentable, c'est minable, c'est risible, ça même, mérite même que l'on se moque, franchement.
T'es quel gros d'Asbrook.
Mais attendez, une baisse du chômage, quand même, c'est.
Mais quelqu'un, pas de quand même. C'est quand même quoi? C'est quand même rien du tout, ma Julie. Allons, c'est trop facile avec une pandémie. Hein. Bien sûr, ça fait travailler les médecins, les infirmiers, les fabricants de masques, les marchands de plexiglas, les pompes funèbres, les producteurs de chrysanthèmes, les garagistes. Il y avait même de quoi obtenir le plein emploi, franchement. Franchement, mais quel nul. J'ai envie de dire, quelle tâche. Allons, comparons, je n'ai pas eu la chance d'avoir un virus mortel pendant mon quinquennat. Non. Ah, mais c'est comme une guerre, c'est trop facile d'avoir un virus mortel, c'est comme tricher aux jeux vidéo. Moi franchement, je vous dire franchement, j'avais hésité, moi, à déclencher bonne guerre. Hein? Mais bon, oui, mais pour relancer l'économie, mais j'avais et avoir le plein emploi. Oui, bon, j'avais peur pour ma cote de popularité. Mais quand on voit aujourd'hui celle d'Edouard Philippe flamboyante en pleine pandémie, j'ai peut-être eu tort, d'ailleurs.
Oui, bon, ben ça va, allez, c'est bon, merci, monsieur Hollande. Hey. Vous pouvez refaire ça.
Un grand magicien ne fait jamais deux fois le même coup.
La députée En Marche, Laetitia Avia, fait l'objet d'un article de Mediapart relatant des cas de harcèlement moral sur ses collaborateurs, ainsi que des injures sexistes, homophobes ou racistes. Bonjour Jean-Michel Apathy.
Et bonjour ma chère Julie. Il y a longtemps, bonjour à mon collègue rouleur de R, Mathieu Béliard. Bonjour. L'amateur de rock crado, je l'ai appris ce matin. Si, vous l'avez dit, Nicolas Bétou. Vous êtes le punk de la matinale, le grunge du 6-9 avec votre barbe de métalleux. Et moi aussi, je vais vous dire une chose, j'ai toujours, on ne va pas poser la question, mais moi j'ai toujours aimé ça, le rock, j'étais un très grand fan,
Oui, c'est bon. Revenons à nos moutons. Allez, s'il vous plaît. 5 collaborateurs accusent Laetitia Avia d'homophobie, par exemple. Hein, après le vote d'un amendement en faveur des réfugiés homosexuels, elle écrit à son équipe « On a voté l'amendement des PD ». Elle est aussi accusée de racisme pour avoir écrit à un collaborateur asiatique « Tu es un faux chinois, tu ne maîtrises pas Mac ».
Oui, mais attendez, il faut être exhaustif. Elle s'est quand même défendue. J'ai pu lire le texte d'ailleurs de sa plainte pour diffamation. Monsieur le procureur de la République, blablabla. Je sous-signais Chine Avia, déclare totalement mensongère les accusations du Shintok et de la Tarlouse, ainsi que des 3 autres salopes pour qui j'ai toujours eu le plus profond respect. Vous savez, la meilleure défense, c'est l'attaque.
C'est ça. Alors, coïncidence, la proposition de loi de Laetitia Avia contre la haine sur Internet a été adoptée hier.
C'est vrai que ça, c'est un petit peu paradoxal.
Bah oui.
C'est paradoxal. C'est un peu comme si Isabelle Balkany faisait passer une loi contre les paradis fiscaux.
Bah voilà.
Si, je ne sais pas, moi, si Benjamin Griveaux faisait passer une loi contre la pornographie en ligne. Voilà. Mais c'est comme ça. Il y en a toujours qui doutent de rire.
Voilà le mot de la fin qu'on attendait. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a estimé que l'industrie automobile devrait relocaliser sa production en France en contrepartie des aides de l'État suite à la crise du coronavirus. Bonjour, monsieur Le Maire.
Oui, bonjour, madame Julie. Bonjour, monsieur Béliard. Et bonjour à tous vos sous-fifres si aimables. Oui, sur ce sujet, il n'y a pas de débat. Je le dis à Renault. Hein, vous voulez des aides de l'État? Eh bien, arrêtez de fabriquer des Twingo en Tunisie ou en Slovaquie dans un premier temps, franchement.
Dans un premier temps, vous voulez dire quoi?
Mais oui, parce que le mieux, ce serait de ne pas en fabriquer du tout. Hein. Enfin, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, quoi. Le contribuable français ne va pas mettre la main à la poche, ne va pas raquer pour qu'on lui fabrique des Twingo, des Dacia.
Hein,
des
Dacia,
c'est le même groupe, écoutez.
Oui,
des Dacia, non mais franchement, on dirait des jouets sortis d'un Kinder Surprise de l'ex-URSS.
Oh,
hein, c'est pas possible. Hein. Demandez à votre ami garagiste. Hein, donc, les ingénieurs de chez Renault, je lance un appel, tiens, sur votre antenne. Les ingénieurs de chez Renault, vous sortez les doigts du yonf. Hein. Vous dessinez des bagnoles qui ont un peu de gueule, merde. Hein, sinon, les subventions, c'est terminé, c'est fini. Comment ils font? Tiens, les dessinateur de Rolls. Hein, ça coûte plus cher de dessiner un beau dessin que un crayon HB comme tout le monde. Hein, mais ils ont du goût, ça coûte pas plus cher d'avoir une belle ligne.
Regardez-moi. En tout cas, c'est étonnant de vous voir demander des relocalisations, parce que jusque-là, les délocalisations, ça ne vous bouleversait pas plus que ça. Hein. Ni vous, ni La République En Marche d'ailleurs, ni Les Républicains, votre ancienne famille politique.
Mais ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai, madame Julie. J'ai toujours été contre les délocalisations. Hein. Vous savez, j'ai souvent été en Marseille, dans les cours d'usine, pour faire griller des merguez sur des pneus qui brûlent en chantant très fort avec monsieur Ruffin ou monsieur Poupou.
Oui, c'est ça, oui, oui.
Ce sont mes frères. Oui, ce... non, mais ne riez pas, ce sont mes frères de lutte. Et aujourd'hui, j'ai enfin d'ailleurs l'opportunité de faire payer les sociales traites du grand capital ainsi que les bourgeois possédants. Oh là là. C'est la lutte. Oh là. C'est très bien la musique. C'est tout moi, j'adore. Ah, oui, c'est aussi bien que les Kings, les Beatles ou les Rolling Stones.
Merci Bruno Le Maire. BFM TV a révélé hier qu'un stock d'1,5 million de masques avait été brûlé au mois de mars. Éric Ciotti a interpellé Olivier Véran, le ministre de la Santé, cette semaine, au sujet d'un autre stock de masques brûlés. Et le ministre a répondu, bah, ces masques étaient moisis, vous ne les auriez même pas donnés à votre lapin nain. Bonjour Éric Ciotti.
Oui, bonjour. Bonjour Madame Julie, bonjour à toute votre équipe concomitante, Monsieur Béliard. Oui. Écoutez, oui, je vois tout de suite l'objet de vos ricanements. Hein, c'est tellement facile. Oui, j'ai un lapin nain, je l'assume. Enfin, pour vous, c'est un lapin nain, mais pour moi, c'est un lapin normal. Voire même un lapin géant.
Alors, comment il s'appelle, ce lapin nain ?
Gouvernement. Je l'ai appelé gouvernement. Ah bon. Oui, parce que ce lapin ne fait jamais rien. Voilà.
Et Olivier Véran voilà. Vous a donc il vous a répondu. Hein,
non, écoutez, ça suffit. Non, écoutez, vous êtes assez moqué de mon lapin géant. Hein. Je voulais revenir sur cette affaire de masques brûlés.
Oui. Okay.
On a balayé, hein, vous l'avez constaté, d'un revers de main cette question. Mais s'ils étaient moisis ou périmés, c'est qu'on les a laissés moisir. C'est ça la réalité du problème. Le gouvernement n'a rien fait. Il fallait stocker ces masques, franchement, ailleurs que dans le grenier d'une fromagerie. Hein. Alors, la prochaine fois, j'aimerais bien qu'on en fasse quelque chose d'utile, hein, quitte à ce que ce soit effectivement de la litière pour mon lapin ou mon hamster.
Ah, parce que vous avez un hamster aussi ?
Oui, j'ai acheté un... Oui, mais écoutez... Vous savez, je suis un homme de sécurité. J'ai acheté un hamster pour protéger ma maison. C'est un hamster de garde.
Oh là là.
Attention, ne pas entrer, hamster de garde. J'ai le panneau devant mon domicile. Vous avez... Non, mais vous souriez. Est-ce que vous avez vu réellement les dents que ça a, un hamster ? Hein, elles font une taille concomitante à ma jambe.
Oh, okay. C'est bon, Éric Ciotti. À bientôt. Sans Philippe prise. De Villiers a lancé une pétition pour rouvrir le Puy du Fou. Bonjour, Philippe De Villiers.
Oui, bonjour, femelle. Est-ce que toi, tu as signé ma pétition ?
Non. Hein,
exceptionnellement, même la voix du sexe faible est importante.
Ouais, dis donc.
Car le Puy du Fou ne peut pas, ne doit pas mourir. Il doit rouvrir. Les recettes du parc font vivre. Peut-être l'ignorez-vous sur votre radio de Manant, mais ces recettes du parc du Puy du Fou font vivre des milliers de bénévoles.
Bah, attendez, s'ils sont bénévoles, ils ne vivent pas des recettes du parc.
Silence, gourgandine radiophonique. Range ailleurs ta malice.
Range ta malice.
Oui, ta malice maléfique. Les bénévoles reçoivent de l'ouverture du parc une nourriture spirituelle. Voilà. Ils y gagnent l'équilibre, ils y gagnent la piété, le salut éternel. C'est pas rien, merde, putain. Laissez-nous ouvrir, j'ai besoin de mes gladiateurs. Que mes gladiateurs gladiatent et que mes cavaliers cavalent.
Mais attendez, vos spectateurs risquent d'attraper le Covid.
Non.
Quoi ?
D'attraper le Covid, Leclerc, on dit la Covid. Ah, l'Académie française a tranché sur
oui,
ce
c'est
point.
Vrai, c'est vrai.
Vous n'êtes pas une radio d'actualité.
Non, on savait. Oui, l'Académie a décrété qu'on disait la Covid.
La Covid.
Car c'est, oui, la maladie du coronavirus.
Oui, surtout parce que les calamités, vous le constatez, sont féminines. La maladie. La mort. La tombe. La
oui,
toux.
Bon.
La morve. La saloperie de la Chine. Hein.
Oh bah, dis...
Bah oui, c'est des preuves, ça. C'est des preuves tangibles. Non, mais femelles, ils ne tomberont pas malades dans l'an Puy du Fou. C'est ce qu'il faut marteler sur au toxin de ta radio. Ouverte, soi-disant ouverte, car le Seigneur empêchera les bons chrétiens solvables, de contracter la Covid. Alors priez, mettez-vous à genoux, Béliard Darmon, mais tout.
Mettez-vous à genoux, repentez-vous, chantez l'Alléluia, le clair, et vous serez préservé de la malédiction chinoise et pourrez tranquillement dans vos pensées, vos sous. Pifo! Alléluia!
À la fin, c'était quoi?
Merci, Nicolas. Grand magicien, ne fais jamais deux fois le même tour. Merci. On t'a dit, Béat. Toi, tu changes jamais deux fois le même tour.
Attention, attention, les chrétiens solvables seront épargnés. J'ai retenu. Merci beaucoup, Nicolas Canteloup. Et bravo.
Et moi, je range ma malice. Allez, ouais.
Merci, Julie, pour la malice. Et bravo aux auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. Vous retrouvez la revue de presse sur Europe1.fr. 8h58.
Europe 1.
Vous restez bien sur Europe 1 dans quelques secondes. Un nouveau journal, le journal de 9h avec Hélène Zelani. 9h sur Europe 1, un nouveau journal avec Hélène Zelani.
Oui, il y aura une saison touristique cet été, évidemment. Elle va effectivement être différente. Je ne vais pas dire par pays, je préfère dire par zone.
Le commissaire européen Thierry Breton en appelle à l'ouverture des frontières des 27 pour sauver le tourisme. Il était l'invité d'Europe 1 ce matin. Sauver le tourisme, c'est tout l'enjeu du comité interministériel qui s'ouvre à l'instant. Un plan de près d'1,5 milliard d'euros devrait être annoncé. Retour à l'école pour les petits Parisiens, notamment ce matin, et en tout cas pour certains d'entre eux, dans des conditions évidemment très particulière.
C'est stressant, enfin, tu t'attendais à revoir tes copines et puis en fait t'es éloigné, tu peux pas leur parler et du coup bah, c'est nul.
Dans ce journal également, le taux de chômage en baisse au premier trimestre, décryptage d'Axel de Tarlé. Et puis si les parcs et jardins de la capitale gardent porte close, le parc de la Courneuve en Seine-Saint-Denis rouvre ce matin, mais prudence quand même.
Faut pas croire que parce que le parc rouvre, parce que il fait beau, que ça y est, le virus il est parti, c'est pas vrai.
Et juste après ce journal, Mathieu.
Comment rouvrir les restaurants? Conditions sanitaires, innovation après le confinement. Le premier chef 3 étoiles à se lancer dans la livraison avec nous, Guy Savoie, jusqu'à 9h30. Vous intervenez restaurateur, mais client aussi. 3921 et le hashtag Radio Ouverte. 9h02 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Les grands moyens pour sauver le secteur du tourisme, un comité interministériel s'ouvre donc en ce moment même à Matignon, autour d'Édouard Philippe, et cela pour voler au secours d'un secteur désormais priorité nationale.
À l'approche de l'été, l'une des grandes questions, c'est l'ouverture des frontières européennes. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, était l'invité d'Europe 1 ce matin. Il s'est montré plutôt optimiste.
Oui, il y aura une saison touristique cet été, évidemment. Elle va effectivement être différente. Je ne vais pas dire par pays, je préfère dire par zone. Chacun maintenant doit ouvrir ses frontières en fonction de l'évolution de la pandémie et des critères épidémiologiques. Donc vous allez voir effectivement dans cette période qui va concerner, il faut le dire, non pas plusieurs mois, mais quelques semaines. Et ce qu'il convient de faire, c'est évidemment de sauver ce secteur. Je dis bien de le sauver.
Le commissaire européen au marché intérieur au micro de Sonia Mabrouk, il faut sauver le tourisme. En France, Édouard Philippe devrait donc annoncer un plan de près d'1,5 milliard d'euros et une série de décisions pour ce secteur qui emploie quelques 2 millions de personnes. Les hôteliers notamment attendent des consignes le plus vite possible, comme celui qu'a rencontré Jeanne Bergaoui à Paris.
La chambre n'a pas été utilisée depuis le 15 mars.
Pas un client et une perte de 98% de son chiffre d'affaires. Pendant 2 mois, Sam est resté confiné seul dans son hôtel 3 étoiles au pied de la butte Montmartre. Depuis 4 jours, il a rouvert en respectant les gestes barrières.
C'est propre chez moi.
Mais il s'inquiète d'éventuelles nouvelles normes sanitaires.
Vous imaginez le client, je dois le suivre derrière, nettoyer tout ce qui touche, désinfecter toute la chambre, je dois lessiver les murs, les plafonds. Non, dans ce cas-là, c'est pas possible.
Pour limiter les risques, la Commission européenne propose par exemple de privilégier le service à table plutôt que les buffets, d'installer les clients à 2 mètres les uns des autres. Mais en France, quelles sont les directives? S'impatiente Lucien Vaignat. Il s'occupe d'un grand hôtel familial au cœur de la Bourgogne.
On ne sait pas comment gérer la réouverture. On a ce qui va être imposé par le gouvernement et ce que la clientèle va nous demander. Ça va être un vrai casse-tête.
Un casse-tête qu'il faut résoudre au plus vite, affirment les fédérations hôtelières. Elles pressent le gouvernement et insistent pour obtenir des protocoles clairs afin de pouvoir enfin préparer la saison estivale.
Et cette question est évidemment liée hein, au débat que l'on va avoir après ce journal. Évidemment, la restauration, le tourisme, ces secteurs du service français. 39-21 pour intervenir. N'hésitez surtout pas. Il est évident que si Sanofi découvre un vaccin contre le Covid-19, il sera accessible à tous. Mise au point du patron du laboratoire français ce matin sur BFM TV.
Oui, le président de Sanofi France, Olivier Bogilot, qui précise que Sanofi ne distribuera pas prioritairement, j'ai du mal à le dire, aux États-Unis un éventuel vaccin si l'Union européenne se montre aussi efficace pour financer son développement. La barre des 27 000 morts est désormais franchie, mais le nombre de patients en réanimation continue à baisser. Il en reste moins de 2500 dans toute la France. Les personnels hospitaliers de 40 départements vont d'ailleurs recevoir la prime maximum promise par le gouvernement, 1500 euros net.
9h05 sur Europe 1. Attention, chiffre en trompe-l'œil. En pleine crise du coronavirus, le taux de chômage a baissé de 0,3 points au premier trimestre pour atteindre 7,8% de la population active. Comment faut-il comprendre ce chiffre que dévoile l'INSEE ce matin, Axel de Tarlé?
Eh bien écoutez, le premier trimestre s'est achevé le 31 mars. Le confinement venait de commencer. Or, que s'est-il passé avec le début du confinement? Eh bien, je cite l'INSEE, « Le coronavirus a fortement affecté le comportement des personnes en recherche d'emploi. » Donc concrètement, ces personnes ont arrêté de chercher du travail. Pourquoi ? Pas parce qu'il fallait garder les enfants, parce qu'on avait la tête ailleurs, et parce que de toute façon, avec le confinement, les entreprises n'embauchent plus. Or, la définition du chômage est très stricte. Pour être comptabilisé comme chômeur, il faut être disponible et en recherche active. Donc vous voyez comment techniquement le confinement a fait baisser le nombre de chômeurs, des personnes sans emploi mais qui n'ont plus été comptabilisées comme étant au chômage. Donc oui, c'est une baisse en trompe-l'œil car malheureusement il faut s'attendre à de très mauvais chiffres pour la suite, d'une part parce que les entreprises vont commencer à licencier et puis de l'autre parce qu'il n'y a plus aucune embauche.
Axel de Tarlé, de nouveaux élèves reprennent le chemin de l'école ce matin, notamment à Paris, dans plusieurs communes d'Île-de-France, à Lyon ou encore à Lille. Virginie Salmen, vous êtes devant une école élémentaire du 18e arrondissement de la capitale. Elle ressemble à quoi cette rentrée pour les enfants ?
Eh bien, un moment historique, disent les maîtresses et les maîtres qui étaient derrière la porte, smartphone à la main, pour prendre une photo de cette reprise inédite. Sur le trottoir devant l'école, un marquage au sol tous les 1 mètre et un rappel à l'ordre de la directrice, madame Giovannangeli.
Bonjour. Alors, est-ce que tout le monde est sur son sticker ? Non. On respecte les distanciations, s'il vous plaît. Merci. Monsieur, il y a des stickers qui sont prévus. Merci.
Les CM2C, les CM1B.
Dans toute l'école, il y a des autocollants rouges et noirs par terre et des élèves qui portent des masques pour certains, plus ou moins contents de revenir dans ces conditions.
Je suis beaucoup content parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venue et 2 mois de confinement, c'est pas simple quand même.
C'est stressant, enfin, tu t'attendais à revoir tes copines et puis en fait t'es éloigné, tu peux pas leur parler et du coup bah, c'est nul.
Je vais mettre la tonne de savon et du coup après je vais monter en cours.
Et effectivement, le premier geste ce matin, c'est le lavage des mains dans le grand lavabo en céramique de cette école parisienne.
Virginie Salmen, si vous comptez organiser un apéro, un dîner ou une réunion de famille, restez prudent, mais sachez que finalement, les rassemblements de plus de 10 personnes dans les lieux privés sont autorisés. Pas d'emplettes au Galeries Lafayette ni au printemps. Jusqu'au 10 juillet, ces grands magasins parisiens de plus de 40 000 m² restent fermés au public. Idem pour les parcs et jardins de la capitale. En dépit de l'insistance d'Anne Hidalgo, le gouvernement dit non.
En revanche, en Seine-Saint-Denis, le parc de la Courneuve, avec ses 400 hectares de verdure, vient de rouvrir. Oui, ce matin, la préfecture a donné son feu vert pour une phase de test. Une très bonne nouvelle pour les habitants du département le plus pauvre de France. Justin Morin est allé y faire un tour.
On est content, on va pouvoir aller courir.
Et ce matin, plus de voitures pour accompagner Kevin le long de la départementale comme ces 2 derniers mois. Mais des écureuils, le vent dans les arbres et de grandes étendues d'herbes fraîches.
C'est génial, c'est notre jardin ici. Bah ouais, que de rester enfermé dans un appartement, nous dès qu'il fait beau on est ici.
Sauf qu'il ne sera pas encore possible de faire bronzette comme il en rêve. Du vélo, de la trottinette, de la marche, ok. Mais la règle, c'est pas d'attroupement statique, donc pas de pique-nique. Les aires de jeu pour enfants et les barbecues sont condamnés.
Oui, c'est normal, c'est important.
Mais il faut que les gens y mettent quand même le masque.
Il est seulement recommandé, ce que regrette Sylvie et Jean-Michel.
C'est hyper important, faut
pas croire que parce que le parc rouvre, parce que il fait beau, que ça y est, le virus il est parti. C'est pas vrai.
Stéphane Troussel, le président socialiste du département, est sur la même longueur d'onde.
Il faut être clair, le préfet de la Seine-Saint-Denis m'a effectivement dit que si ça ne se passait pas bien, eh bien il pourrait remettre en cause cette expérimentation. Donc il faut continuer à être particulièrement vigilant.
Des agents du département et des policiers à cheval circuleront dans le parc dès ce matin pour s'en assurer.
Le parc de la Courneuve en Seine-Saint-Denis qui est désormais ouvert tous les jours de 7h30 à 20h.
C'est une expérimentation, oui, dans ce débat sur les parcs et jardins. Merci Hélène Zélani, c'était le journal de 9h à presque 9h10. Nous retrouvons Valérie Darmon pour la météo, avec le temps de la fin de semaine, Valérie.
Bah oui, bah ça va être un temps à se promener dans les parcs et les jardins sur la moitié nord en tout cas. Alors demain, il fera exactement le même temps qu'aujourd'hui, c'est très simple. Le nord au soleil et le sud orageux et nuageux. Samedi, on a une instabilité encore qui va apporter des pluies et des orages. Des Pyrénées aux Alpes du Sud, averses aussi près de la Méditerranée. Dans le nord et dans l'ouest, vous conserverez un temps calme et sec avec toujours un peu de vent de nord-est dans les régions centre. Dimanche, retour d'un temps calme et ensoleillé sur les trois quarts de la France cette fois. Le risque d'averses et les orages qui vont persister uniquement sur un petit tiers sud, en particulier près des reliefs. Après, ce sera soleil pour tout le monde. Les températures, elles vont remonter tranquillement avec un vent orienté au nord. Il fera quand même frais le matin avec des minimales entre 3 et 10 degrés du nord au sud. L'après-midi, les températures maximales afficheront 17 à 24 du nord au sud aussi. Des valeurs à peu près de saison, mais ensuite, les températures remontent et le beau temps se réinstalle à partir de lundi.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Il est 9h10.
Europe 1.
Vous restez bien sur Europe 1, la question des restaurants. C'est vrai qu'on parle du tourisme d'une manière générale aujourd'hui avec ce comité interministériel. Dans la demi-heure qui vient, dans les 20 minutes qui viennent, on va s'arrêter sur les restaurants précisément. D'abord avec Guy Savoie, chef 3 étoiles, le premier à lancer un 3 étoiles dans la livraison. Hein. Le Drive, rendez-vous bien compte, c'est un emblème de la gastronomie française. Avec lui, on peut parler justement de la diversité de la restauration française qui traverse une crise sans précédent. Arrêt total depuis le 17 mars dernier. Quelle reprise pour la restauration ? C'est essentiel, hein. C'est un pilier de notre économie. Et on va en parler dans quelques toutes petites secondes avec vous. 3921, le hashtag Radio Ouverte. Dites-nous franchement, ça vous manque pas ? Un bon resto ? Il est 9h11.
Mathieu Béliard.
Comment rouvrir les restaurants ? C'est la question que nous posons, elle ne peut pas être plus simple et je vous attends ce matin au 3921 sur le hashtag Radio Ouverte, que vous soyez restaurateur ou client en manque d'un restaurant, c'est ce que je dis depuis 6h ce matin. À 9h14, laissez-moi saluer mon invité. Bonjour Guy Savoie.
Bonjour Mathieu.
Merci.
Déjà, je voudrais vous féliciter pour le ton positif que vous donnez à votre matinale.
Merci.
Moi
beaucoup.
Qui suis un matinal, j'ai donc le plaisir d'écouter ce ton positif au quotidien dans cette période un peu difficile.
Et j'ai le grand plaisir d'accueillir Guy Savoie ce matin sur Europe 1 parce que la restauration en France, je ne l'apprends à personne, c'est plus qu'un symbole. Évidemment, c'est aussi une vitrine et elle est d'une grande diversité. Avec vous, on va parler de tous les restaurants. Mais d'abord, vous lancez cette semaine, et ça c'est une première pour un chef 3 étoiles, la livraison, le drive. Donc après 2 mois de confinement, on en est là, on peut même livrer des plats 3 étoiles.
Absolument, pas que des plats 3 étoiles, parce que je fais cette possibilité, j'irai dans mes 4 établissements parisiens. Moi, je me suis, enfin, le restaurant du Quai de Conti, le restaurant Guy Savoie, s'est associé au Chiberta pour 2 plats. Mais en fait, l'objet, en fait, la vente à emporter, ben, c'est bien sûr adhérer déjà au desserrement du confinement. Hein, puis il faut que l'on retrouve le lien avec nos convives, parce qu'un plat, une saveur, c'est aussi le souvenir de bons moments passés avant cette crise. Donc, il s'agit donc bien que de renforcer ce lien qui ne s'est pas distendu pendant le confinement. De retrouver les plats qui rappellent les moments de partage et de convivialité, cette convivialité qui est bien sûr un ingrédient essentiel de l'art de vivre à la française, comme associé à tous, à la diversité des produits et tout ce que vous avez déjà noté. Voilà.
On en a besoin, vous avez raison de le souligner, on en a besoin de ce lien, parce que si l'on déconfine progressivement pour travailler, pour aller dans les transports, c'est une chose, mais on le voit bien, le canal Saint-Martin, le débat sur les parcs et jardins, l'envie justement de reprendre une vie normale. Et c'est ça, les restaurants français, et là je parle de tous les restaurants, c'est ça la vie normale.
Tous les restaurants, bien sûr, le bistrot et sa terrasse. Je crois que là, dans la belle saison qui arrive, mes confrères qui ont des terrasses vont certainement plus regarder la météo que les statistiques. Donc, ça va être assez intéressant d'observer tout ça et puis de faire revivre ce pays avec sa singularité, quoi, son attractivité. Si la France fait rêver, c'est aussi par ces terrasses de café, c'est aussi par ces brasseries animées, c'est par tout ce qui compose cette diversité et qui débouche sur ce mot magnifique qui est à la fois la gastronomie et surtout la gourmandise.
Marie nous a écrit sur le hashtag Radio Ouverte, tellement pressée de boire une bière en terrasse et de finir pourquoi pas avec une planche de charcuterie. On a besoin de décompresser, la futilité devient d'utilité publique. Alors Guy Savoie, cette livraison depuis vos restaurants parisiens, il y a 4 établissements je le rappelle, et vous travaillez avec 150 collaborateurs. Ça prend quelle forme? Vous livrez vous-même d'abord?
Oui, donc on s'appuie sur des spécialistes de la livraison. Hein, par exemple, pour l'atelier Maître Albert, c'est bon, des très connus, des Livreaux et Uber Eats. Mm-hmm. Pour le Chiberta, c'est un livreur qui s'appelle Olvo. Ça se passe en vélo électrique et bon, il faut prévoir un délai d'une heure lorsque vous avez passé votre commande. Mais il est toujours préférable de la passer un peu plus en amont sur les différents sites. Donc, ateliermaitrealbert.com, lechiberta.com et soupouramenguysavoie.com. Là, voilà. Là, vous aurez tous les renseignements et ça va de 12 euros jusqu'à une centaine d'euros pour la soupe d'artichaut à la truffe et qui est servie avec une brioche feuilletée aux champignons tartinée d'un beurre de truffe qui est le plat signature du restaurant du Quai de Conti.
C'était important, j'allais vous poser la question du menu. En termes de packaging, quand on reçoit comme ça en livraison ou qu'on vient chercher en drive un plat 3 étoiles, fut-il 3 étoiles ou même pour les autres, c'est présenté comment?
Alors bon, on a bien sûr tenu compte de l'environnement, on a tenu bien sûr compte des matériaux. Donc là, on a la soupe est livrée en bocaux, le beurre de truffe est mis également dans un petit bocal, et tout le packaging, c'est du carton papier Kraft. Mm-hmm. Et voilà, tout est il n'y a pas de plastique, il n'y a que des matériaux, je dirais, nobles et répondant aux critères écologiques. Et je répète, le livreur, c'est à vélo. Par vélo électrique.
Voilà. Oui, c'est important de le préciser. Mais cela dit, il y a un travail chez vous, il y a un artisanat bien français. Est-ce que vous donnez quand même quelques consignes pour ne serait-ce que réchauffer les plats et ne pas les abîmer?
Bien sûr, tout est prévu pour les consignes. Justement, enfin, le choix de plats est limité justement pour que tout arrive dans d'excellentes conditions et que tout soit remis à température, je dirais sans risque de surcuisson ou d'altérer les saveurs du plat. Donc tout est parfaitement expliqué.
Oui, il faudrait pas gâcher, hein, ce serait vraiment dommage. Guy Savoie, on va accueillir l'une de vos consoeurs, Marie-Christine, qui est restauratrice dans une région où l'on mange bien, dans l'Allier à Vichy. Bonjour Marie-Christine.
Oui, bonjour.
Soyez la bienvenue. La table d'Antoine.
C'est ça.
Votre restaurant.
La table d'Antoine, oui, qui existe depuis une trentaine d'années.
Et vous avez, vous aussi, choisi de vous diversifier justement dans cette crise du coronavirus.
Oui, alors nous, on est plutôt connus comme un restaurant de qualité, hein, bien évidemment pas l'égal de Guy Savoie, mais il a fallu renouveler l'interdiction d'ouverture. Et donc, nous avons développé un concept inspiré d'Asie, qui est la cuisine de rue. Auquel on a donné un nom, Street Food Éphémère par la table d'Antoine. Et le chef se met dans la rue avec une plaque de snacking pour cuisiner des plats. On propose également des spécialités d'Auvergne. L'idée, c'est aussi de soutenir les producteurs locaux et donc de proposer à la fois du froid, du chaud, du glacé qu'on peut manger aussi bien dans les beaux parcs de Vichy qu'au bureau ou rapporter à la maison et réchauffer.
Guy Savoie, il y a plusieurs choses. Marie-Christine, je vous garde, hein, vous ne raccrochez pas. Il y a plusieurs choses dans ce que nous dit Marie-Christine. D'abord, la réflexion, le travail de ce monde de la restauration en ce moment. Il y a une grande capacité d'innovation et de projection pour sortir de cette crise.
Oui, et Marie-Christine l'a très bien souligné, je crois que c'est aussi essentiel, bien sûr, pour les convives, bien sûr pour nos collaborateurs, mais pour
tous nos fournisseurs, tous ces artisans de la terre et de la mer qui sont aujourd'hui dans une situation également délicate, voire difficile. Donc le fait de, je sais que nous, les premières commandes qu'on a passées mardi, bon, bien, on a senti quand même un soulagement chez nos principaux fournisseurs, même si les quantités ne sont pas encore je dirais conséquentes, mais il y a ce signe est un signe fort pour la reprise et puis pour le moral, je dirais, de toute la chaîne, depuis le pêcheur, le maraîcher, l'éleveur, tous ces gens sans qui nous n'existons pas. Et Marie-Christine l'a très bien souligné, on travaille de plus en plus avec tous ces artisans, encore une fois, de la terre et de la mer, qu'ils sont près de chez nous. Moi, par exemple, le restaurant Soupe pour Amen ne travaille que des produits d'Île-de-France. Que ce soit le porc qui est utilisé, les pâtes sont faites avec de la farine qui vient d'un moulin d'Île-de-France. En fait, tous les légumes viennent d'Île-de-France et tout ça. Je crois qu'il y a de plus en plus cette prise de conscience du local, quoi. Le locavore, c'est quelque chose qui a maintenant une très très grande place, quel que soit le type du restaurant. Hein.
Marie-Christine, et dans l'Allier aussi, hein, si on veut manger local, on a largement de quoi faire. Vous parliez de spécialités d'Auvergne. Vous pouvez nous en mentionner une ou deux ?
Alors, par exemple, là, en ce moment, nous proposons un gazpacho de courgettes au gapon et crouton. Donc, le gapon, c'est un fromage d'Auvergne. Nous avons de très belles volailles. Donc, nous proposons un poulet fermier d'Auvergne, mais qui est travaillé avec des saveurs un peu exotiques, comme la menthe et la coriandre. On aime beaucoup l'Asie, donc c'est souvent un mélange de ce qu'on appelle aussi la cuisine fusion. Quoi d'autre, le cochon, Guy Savoie en parlait, c'est la région. On a une papillote de poitrine de porc en aigre doux avec une polenta au citron confit. Donc voilà, un grand...
Marie-Christine, j'ai quatre crises d'hypoglycémie en régie là, hein. à l'écoute de votre témoignage, si je puis les compter ainsi. Guy Savoie, Marie-Christine aussi d'ailleurs. C'est important. Hier, on avait ce débat sur le monde d'après le confinement et sur la volonté peut-être de retrouver certaines valeurs. On va pas s'avancer, on réfléchit tout doucement. Aujourd'hui, les restaurateurs aussi vont devoir s'interroger sur ce qu'est la France après le confinement. Peut-être manger plus local, manger de meilleure qualité, moins mais mieux.
Non, mais cette interrogation, je crois que nous, on l'a au quotidien, et depuis moi que j'exerce ce métier, je veux dire, j'ai toujours fait, bien sûr, très attention aux produits, à leur authenticité, à leur artisanat, tout simplement, quoi. C'est pas par hasard qu'on a déterminé qu'une région bien spécifique allait donner la volaille avec une race de volaille, de poulet très, très spécifique encore, allait donner cette appellation extraordinaire qu'est la volaille de Bresse et qui sert un peu d'exemple aujourd'hui pour tous les éleveurs de volaille. Je crois que on est le pays de cette singularité des produits, de cette diversité des produits, associé au savoir-faire aussi, parce qu'on est le pays de tous les savoir-faire, que ce soit en boulangerie, en charcuterie, en fromage, en vin, enfin la planète entière nous envie tout ça. Et puis moi, l'arrivée maintenant des marchés, quoi, c'est la vitrine de tout ce que la France produit.
C'est ce que vous avez dit, Guy Savoie,
exceptionnel.
C'est ce que vous avez dit au président de la République, Guy Savoie, lorsqu'il a reçu quelques restaurateurs, dont vous.
Oui, je l'ai dit. Bon, déjà, moi, j'avouais tout simplement qu'en 50 ans de métier, c'est la première fois que, même avec l'énergie, même avec le nombre d'heures travaillées, comme tous les artisans de ce pays, on n'arrive pas à surmonter cette crise, puisqu'on nous a obligés à fermer, et pour des raisons sanitaires. Donc, c'est en effet une priorité. Mais bon, nous sommes des métiers où on a une capacité, bien sûr, d'adaptation, une capacité de travail. Marie-Christine le sait bien, je ne sais pas combien d'heures elle fait par jour, mais tous les métiers que je vous ai cités, ce sont des gens qui font un grand nombre d'heures, qui ont beaucoup d'énergie, hein, qui ne ménagent pas leurs efforts pour leur bien-être, le bien-être du travail bien fait et le bien-être des convives ou des clients qui viennent chez eux.
Alors, une remarque, quand on parle de conditions sanitaires de réouverture, il y a ce débat sur la place que l'on va laisser à chaque client. Quand on parle pour les salariés de 4 mètres carrés, pour un restaurant aujourd'hui, ça paraît assez peu crédible.
Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que notre métier, il est intimement lié depuis toujours à la santé et aux normes sanitaires. Vous vous rendez compte que ce qu'on prépare, vous l'ingérez, vous le dégustez. Donc c'est quand même, il faut une grande confiance. Et donc nous savons l'importance de ces normes pour la santé. Et c'est pour la santé de nos collaborateurs d'abord et de nos convives. Je crois que c'est tout ça est complètement lié. Mais c'est encore une fois, nos métiers sont intimement liés à la santé.
Le doc, ça restera une préoccupation. On va suivre évidemment les dates de réouverture. Vous avez de nouvelles informations, Guy Savoie, vous sur
Vous savez qu'en ce moment il y a une réunion très importante avec des différents
représentants.
C'est mon confrère Alain Ducasse qui représente les restaurateurs. Bon, il y a tous les acteurs du monde tourisme et bon, on espère bien le plus rapidement possible. Et moi, cette mise en place de vente à emporter et tout, c'est justement de montrer un signe fort qu'on est prêt à revivre normalement. Dès que ce fichu virus nous le permettra.
Alors pour terminer sur une note positive, Guy Savoie, Pierre nous écrit, est-ce qu'on a accès à la carte des vins avec votre offre de livraison ou de drive ?
Absolument, bonne question. Il y a un choix limité de vins, donc ça c'est sur le site du Chiberta. En même temps que votre commande de plat, vous pouvez également commander les vins, absolument.
Et merci encore une fois Guy Savoie. D'abord c'est une première pour un chef 3 étoiles de se lancer comme ça dans la livraison, dans le drive. À vélo, hein. Guy Savoie l'a bien souligné sur Europe 1 ce matin, oui. À vélo, avec un emballage écolo, c'est important. Les restaurants de Guy Savoie, les 4 établissements parisiens qui vous livrent désormais, d'autres restaurateurs ont aussi des initiatives de ce genre dans le pays. Il faut sauver la restauration, vitrine du savoir-faire français. C'est ce que souligne Guy Savoie ce matin. Merci à Marie-Christine qui nous a appelé justement depuis l'Allier sur cette question. Guy Savoie, encore merci. Il est 9h28 sur Europe 1 et je vais passer la main à Philippe Vandel pour partir déjeuner.
Exactement.
Il y a urgence là.
Bonjour.